Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Tout de suite, Côté Club fait sa semaine de vacances. Ce soir, Laura Cahen a rendez-vous avec Rover, une émission diffusée le 10 mai 2021.
Vous êtes ici?
Oui.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Côté Club, votre magazine inclusif de toute la scène française. Le rendez-vous de l'actualité musicale, 22h, 23h, en direct. Bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Ce soir, nos invités signent deux des plus beaux albums de la saison. Laura Cahen et Rover, bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Laura Cahen, c'est une fille. Deuxième album qui a perdu le Nord, ça c'était le titre du premier. Aujourd'hui, 12 chansons qui racontent une fille de 2021. Ses désirs, son homosexualité affirmée, ses tourments et une voix qui cavale sur des rythmiques électroniques et des mélodies aériennes. Rover, lui, c'est une voix qui réussit à réchauffer le sous-sol des anciennes glacières Saint-Gilles à Bruxelles où il s'était installé pour signer un troisième album de pop aux mélodies somptueuses, titre Eiskeller, c'est comme ça qu'on dit ?
Eiskeller.
Eiskeller, un album conçu sous terre, mais qui atteint des sommets. Marion ?
Zoom sur trois disques pop et indépendants, ceux de Raoul Vignal, de John Trapp et de Maxwell Farrington et le Super Omar à découvrir vers 22h30.
Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Laura Cahen, Rover, la rencontre. La première fois ?
Non.
Non.
Vous vous connaissez déjà ?
Ça fait un moment qu'on se connaît tous les deux.
C'est vrai. On partage des amis en commun, des gens du métier aussi en commun. Mm-hmm. Et on a toujours plaisir à se croiser.
Notre premier disque a été réalisé par la même personne, tous les deux.
C'est vrai. Samy.
Samy Costa.
Samy Costa, oui.
Pour les deux.
C'est vrai.
Nord et puis...
Et moi, il n'avait pas de nom.
Il avait le vôtre.
C'est un trait d'humilité.
Il s'appelait Rover. Très souvent, d'ailleurs, les premiers albums s'appellent du nom de l'artiste, sauf pour vous. C'était Nord pour le premier. Laura Cahen, Rover, dans les deux cas, un sens de la mélodie, des voix immédiatement identifiables, notamment un peu dans les aigus, des voix travaillées pour vous, je crois, hein, Laura Cahen.
Travaillées dans quel sens?
C'est-à-dire formation, conservatoire, travailler du chant.
Oui, enfin non, pas conservatoire, quelques petits, enfin des cours de chant, voilà, oui, oui.
À quel niveau ? À quel titre des cours de chant ? C'est-à-dire plutôt formation, je sais pas, lyrique, pas lyrique,
oui,
jazz ?
Oui, j'ai commencé des cours de chant quand j'avais 10 ans et j'ai eu plein de profs différents. C'est vrai que j'ai commencé par la technique lyrique, on peut dire, et puis j'essaye de m'en éloigner.
Quelque chose qu'on retrouvait dans le premier album, on en parlera de ces techniques lyriques. Et pour vous, Rover ?
Moi, c'est autodidacte, c'est vraiment l'école du... J'ai deux grands frères qui faisaient de la musique, donc j'ai suivi un peu les sillons comme ça qu'ils ont ouverts. Mais après j'ai un peu un mauvais élève. Je travaille pas plus ma voix que ça. J'en suis conscient et je la préserve en essayant d'avoir une vie à peu près saine. Mais toujours un rapport avec l'instrument qui est la voix, qui est j'aime bien garder le sens de la découverte quand je chante.
Quelle était la voix des premiers de vos frères? Puisque vous parlez de vos frères, c'était quoi ? Suivez la voix, c'était laquelle ?
Oh, c'est la voix de faire de la musique à la maison. Donc, c'est d'être autodidacte, d'être décomplexé, d'enregistrer ses premières maquettes et de reprendre soit les Beatles, U2, je sais pas, n'importe quoi, avec amusement, dans un cadre qui est rassurant, quel cadre familial. Donc, il y a très vite, ça a sauté le complexe de s'entendre enregistrer ou de je déteste ma voix en radio ou sur un message, une messagerie, mais en musique, elle m'est très confortable.
On se ressemble tellement.
C'est vrai ?
Oui.
Pourquoi il y avait des frères et
déjà,
des sœurs ?
Déjà, j'ai deux grands frères aussi qui font de la musique et je les ai suivis de la même façon. Puis, comme beaucoup de personnes, je pense, et comme toi, j'ai horreur d'entendre ma voix, mais pas chanter, ça y est, je suis habituée.
Je peux imaginer. Laura Cahen, une fille, deuxième album. Vous, Rover, c'est le troisième. Eiskeller, on va y revenir, mais avant cela, retour dans le passé. Les premiers pas, ou presque, en tout cas, ceux dont on peut retrouver la trace, notamment sur Internet.
À quatre mains, nous on s'attend. Quand la raison, parfois, s'en vient. On flâne de temps.
À quatre mains et donc à deux voix. Qu'est-ce qu'on écoute, Laura Cahen ?
Mais dis donc, je m'y attendais pas à ça. Je sais même pas où est-ce que vous avez pu trouver ça, parce que...
Vous avez essayé de nettoyer tout sur le net ?
Non, pas du tout, mais c'était avant que tout se retrouve sur Internet. J'ai l'impression que c'était il y a tellement longtemps. Et ben, c'était un peu mon premier groupe que j'ai monté au lycée avec une surveillante de mon lycée qui s'appelle Laurette. Donc c'est Laura et Laurette.
Laura et Laurette, mais c'était pas le nom du groupe.
Non,
hein.
Mais presque.
C'était deux L.
Voilà.
Ah bah oui, bien sûr. Ah bah oui, oui. Bah oui, Laura et Laurette, deux L.
Exactement.
On est en quelle année ?
Je ne sais plus. 2007.
On est à Nancy alors.
On est à Nancy.
10 ans avant le premier album. 2017,
ouais,
c'est le premier
exactement.
Album. Très bien. Avec la surveillante du...
Oui. C'est ça, et puis notre premier concert aux arènes de Metz pour le festival de musique lycéenne, c'était énorme. Première fois que je monte sur scène devant, je sais pas moi, 5000 personnes.
Et vous avez trouvé votre place immédiatement ?
Ouf, j'étais un peu stressée quand même là.
Mais une fois que vous y étiez, ça...
Oui, j'étais heureuse, ouais, je crois. Ouais.
Donc les premiers pas dans un groupe, peut-être que pour Over, on va trouver à peu près la même chose. Le nom de votre groupe à l'époque, Rover, c'était ?
The New Government.
C'était un groupe de quelle formation ? Quel répertoire ?
On faisait du
punk rock.
Du punk rock dans un pays lointain qui était le Liban. Et ça me fait bizarre d'entendre ce morceau, c'est amusant.
En 2008 ?
En 2008, oui, déjà. Le guitariste est très bon derrière. C'est incroyable d'entendre ce son de guitare. C'est moi, c'est pour ça que j'ai cette blague.
Un pays dont vous avez été expulsé, je lisais.
Ouais.
Ça veut dire quoi ? Vous étiez expulsé du Liban, mais pour quelle raison ?
Parce que je pense que je faisais du rock dans un pays avec des affiches du groupe dans lequel je jouais de la guitare. On était placardés partout et puis je gagnais un petit peu ma vie grâce à ces concerts. Mais j'avais un visa touristique, c'est interdit de gagner sa vie
voilà,
un visa touristique.
C'est pour cette raison-là, d'accord.
Et tous les trois mois, je devais sortir du pays, aller en Syrie ou aller en France. Et j'ai oublié, en fait, dans l'élan d'un été, je me suis dit, oh, je pourrais grappiller 15 jours, 3 semaines. Pas du tout.
Non, on ne rigole pas.
Pas du tout.
Avec ça.
Oh là non.
Et le groupe s'est arrêté à ce moment-là ?
Oui, ça a marqué ça a fait un peu un effet couperet dans le groupe. Et puis, je pense qu'on est arrivé aussi au bout de l'histoire du groupe. Et moi, j'ai profité, entre guillemets, j'ai rebondi en France en commençant le projet Rover, donc pour un mal, pour un bien, je pense.
Je vais vous faire encore écouter un titre et vous allez me dire s'il correspond à l'une ou à l'autre.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe.
Alors ce titre, il correspondrait à qui ? À Rover ? À Laura Cahen ?
À tous, je
à
pense.
À tous les deux, je pense.
Pour quelle raison, chez vous, Laura Cahen ?
Alors moi, mes parents me chantaient ça pour m'endormir toute mon enfance, je pense, cette chanson-là.
Tous les soirs ?
Ou presque.
C'est beau, en fait, de s'endormir sur le nom de Yesterday.
Ça m'émeut, là, d'ailleurs.
Ouais. Mm. Les deux parents ? À l'unisson.
Ben, il me semble, mais peut-être que mon souvenir est faux. Je ne sais pas. Je leur demanderai.
Et vous, Rover ?
Oh ben, moi, d'abord, c'est les Beatles. Donc, c'est Paul McCartney. J'ai un grand fan des Beatles. Mais je pense qu'il est au-delà de la magnifique chanson que c'est. C'est un titre universel. C'est quelque chose qui traverse le temps, comme ça, une espèce de moment de grâce. C'est pas forcément le titre que je préfère des Beatles, mais à chaque fois qu'il m'arrive dans les oreilles, il me crée un espèce effectivement d'apaisement, comme ça.
Nouvel album, donc le troisième pour vous, Rover. Le premier, c'était en 2012, avec le succès immédiat qu'on connaît. Donc du jour au lendemain, consécration internationale. Est-ce que ça a été facile d'appréhender, d'ailleurs, cette notoriété soudaine ? On passe de l'ombre, de l'invisibilité, à la lumière et à la surexposition, en fait.
Oui, c'est un passage très curieux, surtout qu'en plus, étant très casanier et très solitaire dans mon travail, il y a déjà sortir un disque, même un troisième, il y a une forme de violence d'être mis en lumière. Il faut s'extraire d'un état physique et psychique dans lequel moi je me plonge avec bonheur, hein, qui est la solitude et la création. Mais pour un premier disque, ce sont effectivement des années de questionnement, de travail, d'atelier, de home studio. Et c'est pour ça que faire un premier disque dans un vrai studio, on parlait de Sammy Hosta, mais d'accéder à un studio professionnel, d'enregistrer enfin ses chansons, et puis de parler de 30 années de vie comme ça dans un premier disque, et de se retrouver médiatiquement exposé, il y a une forme de violence, certes. Après, je le dis vraiment sans démagogie, mais j'ai un public très bienveillant, et puis même la presse a été très bienveillante, et donc j'ai pas senti une intrusion dans ma vie personnelle ou été secoué, à part par le rythme de travail que ça a imposé.
Oui, parce que les concerts se sont enchaînés, et j'imagine quand là on passe du rien à tout, c'est-à-dire une tournée marathon. Est-ce que ça a été justement facile de trouver le rythme, de se dire chaque soir, allez, on y retourne, ou quelque chose était très naturel de votre part?
Alors, ça restait naturel, mais physiquement, il y a une dimension qu'on ne peut pas préparer, c'est-à-dire qu'il y a même psychiquement, Dieu merci, il n'y a pas eu de lassitude, il y avait toujours un bonheur d'aller sur scène, un bonheur d'aller au-delà dans l'énergie, et puis mon rapport à la scène, il est aussi comme ça, c'est ce que j'aime aller dans des retranchements, mettre ma voix en péril, d'être au bord de l'émotion, des choses comme ça, mais donc j'avais pas un manque de motivation, j'avais peut-être un manque de sommeil seulement.
Juste une question par rapport à son image aussi, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on voit son visage, on se voit partout. Est-ce qu'on a un rapport différent à son image, justement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut coincer?
Certainement. Ça, c'est, je pense que c'est plus les autres qui changent, bizarrement. Ça, c'est quelque chose, ayant eu la chance de pas être médiatisé à 18 ans, mais plus vers 30 ans, je pense que ça m'a préservé de quelques erreurs de jeunesse que je n'avais plus à faire. Mais c'est son entourage qui change beaucoup aussi. Le fait que le projet devient un sujet de discussion permanent, le fait que on parle de nous à la, c'est la blague en antenne, je sais pas, à la troisième personne. Ouais. et qu'on se rend compte qu'on est soi-même témoin de son propre projet ou personnage ou je ne sais quoi ou de son propre disque, mais très vite c'est balayé, la musique nous remet dans le droit chemin. Moi c'est ça qui m'a sauvé, c'est d'aller tous les soirs me frotter au public et me frotter à mes chansons.
Alors moi j'ai regardé aussi ce que racontaient vos trois pochettes. En fait c'est assez éloquent de voir, quand vous serez au troisième on pourra véritablement voir aussi le parcours pour vous Laura Cahen. Mais là c'est très intéressant. Première pochette, donc c'était une sorte de portrait à la Franz Liszt, un côté très 18e, 19e, très romantique. Le deuxième, Let It Glow, vous étiez, ça c'est en 2015, Perfecto et Lunettes Noires, sur fond rouge, donc encore quelque chose d'assez sombre. Et alors le troisième, En pleine lumière, col relevé, on est de profil. Ça raconte quoi, le passage de l'ombre à la lumière? C'est quoi cette...
C'est tellement compliqué comme question, parce que déjà choisir une pochette pour un disque, j'imagine, ouais. C'est je pense le moment où on traverse le plus de tourments et de réflexions, même si j'essaye de pas trop intellectualiser mes choix, mais
Quelque chose se raconte là.
Quelque chose se raconte clairement. Et puis on reste comme aller en tournée, choisir un musicien ou la formation qu'on va choisir. On tire un fil par rapport à l'expérience d'enregistrement ou de composition. Moi, en l'occurrence, la pochette, je voulais que ça reflète exactement ce que j'ai pu intimement vivre pendant le processus d'enregistrement.
Alors même que vous étiez planqué dans un sous-sol, alors que l'on vous voit en pleine lumière.
Oui, parce que tout mon défi, effectivement, c'était de mettre de la lumière dans ce sous-sol.
Ah ben ça, donc, c'est très réussi. On va l'écouter d'ailleurs dans un titre. Oh, on peut parler aussi quand même des pochettes, même si vous n'en êtes pas encore au troisième. Là, on vous voit, Laura Cahen, dans les bras de celle qui doit être votre amie, je pense.
Absolument.
Absolument. Premier album, c'était quelque chose de plus trouble, plus violent. Je me souviens, un visage...
Violent, ah oui, j'aurais pas dit ça, mais en tout cas, plus daté peut-être. J'avais un bandeau sur les yeux, un chignon un peu 19e comme ça, et une couleur un peu passée aussi. Mais aussi, enfin, ça correspondait à ce que je racontais, c'est-à-dire le chemin de mes ancêtres. Aujourd'hui, je me raconte plus moi et exactement. Mon amour, donc c'était cohérent. Quoi.
Une fille de 2021 aujourd'hui et une fille qui regardait vers le passé pour le premier album. Tout de suite, on va écouter un premier titre du nouvel album de Rover, un titre qui ouvre le troisième album, To Be Street. Qu'est-ce qui a décidé d'ailleurs de cette place inaugurale? Parce que j'imagine bien que on choisit les titres, il y a une dramaturgie, on sait par quoi on commence, on sait par quoi on finit. Pourquoi on commence par une lettre qu'on va lire dans plusieurs années, destinée avec comme symbole un arbre?
Moi, je suis très attaché au format disque et je suis très attaché au premier titre qui ouvre un disque. Et toujours avec le même ingrédient, j'aime bien les titres qui fédèrent et qui accueillent une espèce de sas d'entrée. Et je trouvais que celui-là remplissait bien ce rôle. Il avait quelque chose de très accueillant et une vraie nostalgie puissante, parce que de par le texte effectivement et ce qui m'a poussé à écrire la chanson, il me mettait aussi dans une écoute confortable pour aborder les autres titres et je pense que l'ouverture d'un disque a vraiment, comme sur scène, hein, l'entrée, la sortie, il y a quelque chose qui rend le disque hermétique à je ne sais pas à quoi d'ailleurs, mais ou peut-être au contraire ouvert.
Ouvert, ouais, quelque chose que l'on verra aussi parce qu'on a choisi pareil le titre qui ouvre votre album qu'on écoutera tout à l'heure pour la jeter. Juste une question, vous êtes du genre à embrasser les arbres ?
Ah oui.
Oh, alors, c'est pas vrai.
Ah bah si, il faut embrasser les arbres. Ah vraiment. Au
non,
sens
c'est vrai.
Propre,
ouais, juste c'était sûr que vous.
Ah ouais. Oui, oui, oui.
Vraiment.
Dès que je vois un arbre, surtout.
Vous pouvez vous ressourcer en embrassant un arbre.
Quasiment quotidiennement.
Vous avez de la chance.
Ouais, ouais. Moi j'aime me balader au milieu des arbres et les embrasser, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. I know the world's a different place. A silent field without my face, you'll see. It all comes back.
Un extrait de ce troisième album. Il est où cet arbre, Brother?
Le mien.
Oui.
Parce que bon, il est symbolique dans la chanson.
Oui, mais peut être, il y a un référent dans le réel.
Le mien, il est un peu dans le sud de la France. Il est en haut d'une montagne. C'est une route qui devient une impasse et qui mène à un petit village. Et dans ce petit village, il y a un long chemin qui quitte le village et qui descend vers une forêt. Et là, le long de ce chemin, il y a une série d'arbres et il y en a un qui a des pouvoirs magiques.
Vous y allez régulièrement ?
J'essaye. J'essaye de m'offrir ce plaisir-là de temps en temps. Oui.
Troisième album, le premier s'appelait Rover, c'était en 2012. Le deuxième s'appelait Let It Glow en 2015. Entre-temps, bien sûr, il y a eu des tournées, et puis il y a eu des musiques de films. Mais quand même, 2015-2021, le temps passe. Est-ce qu'il y a quand même des tentatives d'écriture ou alors on a tout arrêté pour revenir beaucoup plus tard et prendre son temps?
Alors très honnêtement, il n'y a pas eu des tentatives. J'ai écrit dès le début, en fait. Dès que j'ai quitté la tournée, qui a été assez longue, et qui a été une belle tournée. Après, je suis parti en tournée à deux pour jouer mes maquettes sur scène dans une tournée plus intimiste, qui était extraordinaire à vivre aussi. Mais de fil en aiguille, en fait, 2-3 ans passent. Et très rapidement, j'ai voulu écrire. Et le début, j'ai connu quelques ratés au début. C'est-à-dire que j'avais l'ambition de m'ouvrir, de travailler avec un réalisateur très tôt, d'échanger des maquettes, d'avoir cette relation un peu comme les Anglo-Saxons aiment le faire entre l'artiste et un réalisateur, où j'envoie les premiers mémos. Et je fantasmais ça, d'ouvrir un peu justement ma grotte. Et la rencontre s'est pas faite et j'ai pas trouvé en fait ça a pas marché et je me suis un peu résolu à descendre à la cave ouais.
Mais véritablement puisque donc titre de l'album c'est High Scaler. Alors on écoute tout de suite le titre qui correspond à l'album. Presque à la fin de l'album. Eiskeller, ça veut dire cave à glace en allemand. On va revenir, bien sûr, sur le lieu, hein, parce que ça fait référence au lieu où vous avez composé cet album. Mais d'abord, un mot sur le son étrange de ce titre, en fait.
Il a un rôle très important, moi, dans le processus d'enregistrement. Il m'a décomplexé de beaucoup de choses. Il a été enregistré sur un téléphone, ce titre-là.
Jamais vous n'auriez fait ça avant.
Non, c'est vraiment. Je pense que avant, je me serais payé le luxe de le rejouer au propre sur un piano et de réinterpréter.
De le reproduire. Oui, mais on peut pas reproduire son téléphone.
Voilà, là, ça a capté un moment de nuit où j'ai posé juste le téléphone. Moi, je suis assez un peu allergique aux écrans, donc c'est pour ça que j'aime bien les machines à bandes, tout ça, c'est pour éviter l'écran.
Analogique, ouais.
Et là, j'ai posé mon téléphone pour pas oublier une idée ou un moment. Je sentais qu'il y avait quelque chose et. Et en fait, j'ai essayé de le refaire et j'arrivais jamais à recréer cet instant. Et voilà, le titre aborde en plus un propos qui correspondait à l'état dans lequel je me trouvais. Et je me suis dit que ce qui paraît minime pour beaucoup de gens, mais pour moi, c'était le culot, c'était de garder le titre comme il est et de le mixer à partir d'une source qui est un mémo, quoi. C'est même pas une maquette.
Ouais,
un dictaphone.
Alors, cette cave à glace, on le lit un peu partout dans les entretiens. C'est le lieu que vous avez choisi pour y travailler seul pendant à peu près un an. C'est un sous-sol glacé. Il n'y a pas d'eau courante. 250 mètres carrés. Un lieu qui a une histoire. Ce sont les anciennes glacières Saint-Gilles de Bruxelles. On y stockait la glace pour les restaurants. Puis ça a changé de fonction en passant par un atelier semi-clandestin de boxe. 8 degrés, un sous-sol seul. Comment vous avez présenté la chose au label? Du style, foutez-moi la paix, je ne veux voir personne.
Il y a un peu de ça. Après, ils sont vaccinés, hein, c'est un peu d'actualité, mais ils sont vaccinés à ma manière de faire. Et c'est pas pour leur faire la publicité, mais j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir un label qui est aussi extrême que moi. C'est-à-dire, ils comprennent les démarches et ils me soutiennent vraiment dans mes choix. Après, ils ont dû sentir qu'il y avait un besoin, qu'il y avait aussi une.
Ah ben là, c'est plus qu'un besoin.
Oui, voilà.
Je sais vraiment.
Mais je pense mon directeur artistique a rapidement aussi, moi bon, il a de la bouteille aussi, il sait que les démarches un peu atypiques, un peu extrêmes donnent naissance à des disques qui le sont et qui sont après qui ont une pertinence. Donc, je pense, hein, c'est ce qu'il a dû se dire. Il a dû se faire des cheveux blancs aussi quand même à mon avis.
Bah oui, mais j'imagine que c'est en plus une expérience de vivre seul dans un clairement. Univers comme ça avec plein de réverbérations. Enfin, ça devait être même très difficile à travailler. Vous, Laura Ken, aussi vous avez choisi un endroit pas commun pour travailler l'album.
Oui, c'était en deux temps, ouais. Déjà. Enfin, même beaucoup plus que ça. Parce que
oui, ça a duré 2 ans, on en parlera. Ouais. Mais
Donc j'ai travaillé avec Dan Lévy, qui lui a un château d'eau en Normandie, avec des poules, un chien, des animaux partout.
Dans le studio ?
Des arbres, beaucoup. Non, mais autour.
Des arbres aussi ?
Beaucoup d'arbres.
Donc nos musiciens ce soir passent leur temps à embrasser les arbres.
On adore ça.
On parlera de cet enregistrement tout à l'heure. Est-ce que dans l'histoire de la musique, il y a eu des antécédents, des albums écrits comme ça dans des lieux hostiles à ce point ? Vous êtes penché sur ça?
Hostile? Alors, non, pas vraiment, mais hostile, je sais pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup de, curieusement, dans la période du début des années 70, beaucoup d'albums qui ont quitté le studio. C'est-à-dire que le studio a eu sa période de gloire dans les années 60. Il est revenu après, mais beaucoup de groupes, Led Zeppelin, même John Lennon, a enregistré son deuxième disque dans sa maison. Alors, c'était pas une petite maison, mais on a désenraciné les studios pour les mettre, c'est les premiers studios portables, entre guillemets, pour les mettre dans des lieux atypiques. Après, des lieux extrêmes comme ça, à part Neil Young dans des granges où, quelques grands disques qu'ont été faits avec et qui leur confèrent d'ailleurs une acoustique si particulière. Hein. C'est un peu le but recherché aussi, c'est d'avoir des sons qui sont irréproduisibles en studio. Moi, l'expérience que j'en retire, c'est que j'aurais beaucoup de mal désormais à retourner dans un studio où le son est très maîtrisé. Ce qui me plaît, c'est les défauts et la vie d'une pièce qui sont captées. Et ces fantômes, évidemment.
250 mètres carrés, vous preniez tout l'espace. Comment vous aviez... Ben, c'est ça, mais c'est même un truc physique. Je me demande comment on fait. C'est un grand espace vide. Glacé, comment on prend possession de l'espace?
Ça a été le plus long. Honnêtement, je pense que j'ai mis au moins 6 mois à comprendre pourquoi je m'étais installé ici, dans cet endroit. Et puis mon rôle, même physiquement, ça pousse à l'humilité, ça pousse à essayer de trouver sa place réellement, au sens propre, hein, dans le lieu. Donc c'est mettre ces instruments qui ont vraiment l'air minuscules dans un coin, ou alors se répartir partout. Et puis après, comprendre le son. Il faut imaginer qu'un espace comme ça, le son finit par danser avec nous. C'est-à-dire que je mettais des couvertures de déménagement au mur pour casser la réverbération, des panneaux, des cases des fly cases de guitare avec des couvertures dessus. Et je n'arrivais pas à le dompter, il m'échappait tout le temps. Et je le chassais à coups de micro, j'avais l'impression d'être un chasseur de fantômes. Et petit à petit, on s'acclimate et le lieu nous accepte.
Mais il faisait froid, pardon.
Oui, c'est vraiment ça. Là où il mettait la glace. Donc c'est des salles avec des murs très épais.
Et t'étais habillé comment?
Ah, le pull marin, c'est ce qu'il y a de mieux. pull marin et puis... Et miraculeusement, ils m'ont allumé le chauffage au bout de 8-10 mois. Ils m'ont dit, ah mais il y a un chauffage. Donc c'est vraiment des tuyaux industriels qui sont au plafond, où ils passaient avant un gaz réfrigérant, où ils arrivaient à conserver la glace. Et il semblerait qu'il y avait un chauffage qui...
Et bon, pas le bruit du chauffage pendant l'enregistrement.
Non,
ça
mais
n'a pas
il est anecdotique, hein, le chauffage. Hein, je pense qu'il était juste sur le bail.
Une question par rapport aux histoires de réverbération, de dédoublement. Vous parliez de ça parce qu'il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans l'album et qui n'existait pas avant, ou alors c'est moi qui ne les ai pas entendus. Vous dédoublez votre voix.
Ah, merci d'en parler.
Non, mais c'est vrai, vous dédoublez votre voix.
Je suis un fou du dédoublement de voix.
Bah, comme John Lennon, quoi.
Oui, John Lennon l'a vraiment mis, l'a popularisé en tout cas, mais c'est un effet en fait qui vient du très rapidement. Je vais pas en
faire. Non, mais c'est
qui vient du home studio. C'est-à-dire qu'en home studio, on n'a pas forcément la puissance d'enregistrement qu'on a en studio dit classique avec les compresseurs ou les préamplis. Donc on double sa voix, ce qui lui confère une stéréo parfaite. Donc on les met à droite et à gauche dans le casque, par exemple. Mais pour le faire, il faut chanter sa voix à l'unisson avec la première enregistrée. Donc la deuxième, il faut remettre la bande et chanter la même chose et le mettre à gauche dans le casque. C'est en ça que consiste le doubling. C'est ce qu'on fait sur les refrains en musique. Kurt Cobain était un spécialiste de ça aussi. Moi, c'est un effet qui me fascine tellement parce qu'en fait, ça crée une sinusoïde émotionnelle. La deuxième voix, naturellement, se place un peu en dessous, un micron-ton en dessous, ce qui crée une légère fausseté et qui crée une espèce de nappe de volume et vocale et une stéréo. Moi, la largeur en musique, c'est ce qui me plaît le plus. Peut-être physiquement aussi, mais...
Ah, il faut dire que c'est... Voilà, il y a de la stature.
Hein. Oui.
Robert, c'est une statue.
Bah, du coup, voilà, cet effet-là qui, normalement, est réservé au refrain, moi, je l'ai mis vraiment partout parce que je pourrais en manger sans fin de cette sensation d'avoir deux voix lead dans chaque oreille.
Alors pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt?
Parce qu'on n'est pas forcément seul à faire des disques, parce que
on vous interdisait de le faire?
Je sais pas, peut-être que les autres disques c'était des compromis, peut-être que soi-même on ne s'autorise pas des choses. Je pense que ça vient forcément de moi aussi, hein, au même titre que mettre un titre enregistré sur un 4-piste cassette.
Ouais.
ou du l'autotune. Enfin, il y a plein de choses qui.
Oui, parce qu'en plus, il y a l'autotune.
Ouais. Oui, oui. Ça, typiquement aussi, c'est essayer de trouver une émotion avec un effet très moderne sur une 4-piste cassette qui est très ancienne, que je me trimballe depuis des années, de confronter les sources comme ça et les émotions. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours hanté et que j'ai enfin pu exprimer.
Rover et Laura Cahen, vous restez avec nous. On va retrouver Marion Guilbeault pour une chronique pop, la preuve par trois dans quelques instants. Mais tout de suite, direction rue Saint-Louis en Lille, à Paris, où vit Brigitte Fontaine, on le sait, qui se dit en passant vient d'ailleurs de publier un texte prodigieux qui s'appelle La vieille prodige aux éditions du Tripode. Rue Saint-Louis en Lille, ils sont deux à la visiter, Benjamin Biolay et Juliette Armanet. Suivez le guide sur France Inter.
Une chanson qui sent bon le chagrin, pour te dire combien je suis seul, pour te dire combien je suis las. Un couplet aux airs, un faux refrain, pour dire combien la vie est laide, oui combien elle est dégueulasse. Une chanson qui frise la complainte, pour te dire que la pluie est triste, pour te dire que la neige est crade. Que la lumière n'est que demi-teinte, que j'ai l'air d'un équilibriste, plus que d'un avaleur de sabre. Je me souviens de ton dos, de Saint-Louis en Lille, puis rien de rien, plus un mot, un battement de cils.
Saint-Louis-en-Lille, mais non, vous êtes dans le studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique et vous avez rendez-vous avec Marion Guilbeault.
Le tempo,
côté club,
140 BPM.
Côté club.
Et la vie, elle a un tempo.
Sur France Inter.
Chronique pop, la preuve par trois, Marion Guilbeault.
Oui, ils sont indépendants, ils vivent pour une certaine idée de la pop orchestrée ou expérimentale. Dans un autre temps, ils auraient eu leur ronde serviette chez Bernard Lenoir. Ils sont donc les bienvenus ce soir dans Côté Club. Le premier d'entre eux s'appelle Raoul Vignal. Il est originaire de Lyon, il a vécu à Berlin, il a pas mal bourlingué en Europe, joué avec beaucoup de musiciens. Et sa signature, c'est un dialogue entre un jeu de guitare très subtil, tout en fingerpicking, accordage alternatif et sa voix très douce. Son univers est celui d'un folk à la fois luxuriant, intimiste, avec un certain classicisme. Alors on pense bien sûr à Nick Drake, avec cette même grâce, des chansons hors sol, hors temps. On sent l'œuvre d'un musicien qui n'écoute que ses propres intuitions, comme s'isoler du monde pour rechercher l'harmonie.
What kind of man does it take to lead in the guidance of love? History's doors ajar for the giants of dust. Once the fog of time dissipates, what will be the man we dread to say out loud?
Ah, Barrett Fresco, c'est un avant-goût du nouvel et troisième album Years in Marble sur le label Talitre, un label qui a fait ses preuves avec Thousand et Emily Jane White, Rover, Laura, le fingerpicking, les accordages alternatifs. Ça vous dit quelque chose, j'imagine?
J'adore.
C'est très beau.
On passe dans une dimension plus expérimentale avec John Trapp. John Trapp, c'est le projet de Thomas Luca, musicien, arrangeur, ingénieur du son. Il se présente comme un homme des bois, peu porté sur les mondanités, mais sur les collaborations. Il fait partie ainsi à Brest d'un collectif d'artistes, le Studio Fantôme, avec lequel il produit presque un disque par an, pour lui, mais aussi pour d'autres, comme Arnaud Le Gueffleck, qu'on avait reçu ici pour sa BD Underground, Rocker Maudit, Grande Prêtresse du Rock. Et avant la musique, John Trapp se destinait au cinéma. Et il fonctionne comme un scénariste, avec des carnets de dessins, de notes, comme autant de sources d'inspiration. Il rêve, il coupe, il colle et il vient d'écrire un nouvel album sous forme de 12 courts-métrages hantés par la mort, l'enfance, les personnages à part, l'étrangeté et la puissance de la nature, un peu comme si David Lynch revisitait La Nuit du Chasseur.
La mort s'adouille et tu l'avais pas vu venir. Jette les cendres dans la rivière, sur la terre ou dans la mer. Mais fais gaffe au sens du vent et surtout brûle, brûle, brûle d'amour si tu peux.
Brûle, John Trapp, c'est à retrouver sur Cinéma, son nouvel album, sur l'excellent label L'Église de la Petite Folie. Dernier son. Le plus pop au sens traditionnel du terme, c'est celui de Maxwell Farrington et le Super Omar. Alors, je vous dois quelques éclaircissements sur ce nom. Maxwell Farrington, c'est un Australien. Il est passé par l'Angleterre aujourd'hui, il est installé à Saint-Brieuc. Et le Super Omar, c'est le pseudo de Christophe Vaillant, musicien avignonnais, repéré, adoubé par Paul Weller. Alors, ces deux-là, ils se sont rencontrés lors d'un concert commun à la Boule Noire. Je pense qu'il leur a fallu que quelques bières pour se découvrir un amour commun pour le combo gagnant, à savoir voix de velours à la Lee Hazelwood ou Scott Walker, écriture raffinée à la Burt Bacharach. Alors ce qui est chouette, c'est qu'on ne les sent pas du tout impressionnés par tous ces monuments de l'écriture et de la mélodie à double détente. Comme Neil Hannon avant eux, Maxwell Farrington et le Super Omar sont au-delà de l'exercice de style. Leurs chansons ont du chic et surtout le chic pour nous faire voyager dans cet âge d'or de la pop sans jamais avoir la sensation d'être déjà passé par là.
A vine goes in the jungle like a lion flows on a page. A simple correction, caught in cage. A flower whispers on your breath, it likes your cosmic style. A satellite in bracelets just a while. We, us the pharaohs, live for our own ideals. Stained glass and tarot cards can tell us how you sunlight as my heart grows to the east. The garden loves an email thankfully. 5 million silhouettes on call, yet resting in a bay. They wish for 13 lovers each fine day. We, us the tarot cards can tell us how you feel.
We Us the Pharaohs, c'est le titre qui ouvre Once, le magnifique premier album de Maxwell Farrington et le Super Omar.
Côté club.
Sur France Inter.
Rover et Laura Kane sont nos invités côté club ce soir. Laura Kane de retour avec un deuxième album, Une fille. Le premier, c'était en 2017. Ça s'appelait Nord, piqûre de rappel. Premier album, ça c'était le titre qui ouvrait l'album avec une montée en puissance, un son très réverbe, très lyrique. On n'est plus du tout là-dedans pour ce deuxième album, Laura Kane. Il fallait en prendre le contre-pied exact.
Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. En tout cas, c'est sûr que j'avais pas envie de faire deux fois la même chose. Je pense que je suis comme ça dans mon... quand j'écris des chansons, quand je fais des albums. Enfin, j'en ai pas fait 50, mais bon, j'ai fait quelques EP aussi avant.
Oui.
J'ai toujours envie d'aller complètement ailleurs j'avais envie, oui, je pense, c'est ça, de prendre le contre-pied, de me dire j'ai mis énormément de réverb sur cet album, c'était très organique, et ben allons faire quelque chose d'électronique avec zéro effet pour voir ce que ça fait.
C'était Sammy Hosta qui avait réalisé le premier, comme pour vous aussi, Rover. Cette fois, c'est Dan Levy, l'ex-moitié de Feu The Dough, qui a travaillé avec Jeanne Adède, c'était super, avec Clou aussi dernièrement. L'enregistrement du disque, 2 ans.
Oui.
2 ans. Le label a compris aussi. Ah ouais, alors à vous deux, c'est quand même dingue. Hein, 2 ans pour un album, mais c'est super,
c'est
en même temps.
C'est de la chance d'être suivi par un label qui est très patient.
C'est lui ou c'est vous, les 2 ans? C'est la façon de travailler de Dan Levy.
Je pense que c'est plutôt lui que moi, mais...
Vous y êtes retrouvé quand même.
Je m'y suis retrouvé, ça m'a permis d'écrire plus de chansons.
Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous lui envoyez des trucs, il met 2 ans à vous répondre. Non, ça se passe comment en fait?
Non, ça se passe qu'on a travaillé par pointillé, 2 jours par-ci, 3 jours par-là, 2 jours par-ci.
Mais ça c'est voulu, hein, c'est pas du tout...
C'est voulu, mais je pense que Dan... que j'aime vraiment beaucoup, ne me supporte plus au bout de 2 jours et demi.
Nous savons, on n'a qu'une heure ensemble. On ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Alors, quelque chose a bougé aussi, on va l'écouter, c'est dans la voix, moins lyrique. Mm-hmm. Puisque tout à l'heure, vous disiez que vous aviez une formation au départ, en tout cas un peu lyrique, avec des effets. Donc, pas d'effet, moins lyrique et beaucoup plus précise. Ça, c'est lui aussi ou c'est vous?
C'est nous, je dirais. C'est des discussions. Moi, j'avais envie d'apparaître le plus simplement possible, cette fois. Et lui m'a aidé à ça.
Et cette frontalité qu'on retrouve dans la voix, ça correspondait aussi, j'imagine, à ce que vous vouliez aborder dans les textes. C'est-à-dire quelque chose de plus intime, personnel,
voire
autobiographique.
Exactement. Un ensemble. Et j'avais envie de faire tomber les masques, là, vraiment à tous les niveaux. Et de faire tomber un peu les fioritures. Je pense que je m'étais construit un personnage de voix, un personnage de scène, l'image.
C'était quand même
aussi.
Pas Chimera, hein, non plus.
Non, mais bon, voilà, j'avais besoin de me masquer les yeux. Il y avait un côté un peu Superman, quoi. J'avais besoin de rentrer dans la peau d'un super-héros, peut-être. Et là, j'ai eu envie de gommer tout ça et d'être vraiment au plus proche de ma voix parlée, au plus proche de ce que je suis dans la vie de tous les jours, de me livrer le plus simplement possible, quoi.
Allez, on part tout de suite sur La Jetée. Comme pour tout à l'heure, Rover, c'est le titre qui ouvre l'album. Quand une chanson ouvre l'album, ça donne quoi comme clé de lecture ou d'écoute pour le reste de l'album? Comment on ouvre avec La Jetée, Laura Kane?
La Jetée, c'est le titre peut-être le plus épique de l'album. Et en même temps, il a cette touche aussi un peu électro. Et il a cette intimité, cette histoire d'amour. La tracklist, je l'ai
maniée
dans tous les sens. J'ai fait plein d'essais et c'est ce qui me semblait le mieux.
Vous aussi, la tracklist, Rover, dans tous les sens,
Oui, enfin, ça fait partie des instants
de
questionnement et des
de
tourments.
Doute.
Mais assez agréable, en fait, aussi, où on se rend compte qu'un titre change toute la lecture. Et...
Puis à un moment donné, on se dit, voilà, c'est ça. Ouais. Là, je n'y touche plus, je suis sûre que c'est comme ça.
La Jetée.
Thank you.
La jetée, superbe titre qui ouvre l'album Une fille. Ça danse dans la cabine technique. J'ai vu quelqu'un qui était en train de faire la bamboche.
On se demande bien qui c'est.
Ah, on peut bien se demander. En tout cas, ça va danser dans les concerts. Mais c'est vrai que c'est vraiment l'album est fait aussi dans cette.
Oui, oui. Et puis, je réfléchissais à la question précédente pendant le titre et je me disais, bah oui, je pense qu'il y a une des clés aussi de lecture de l'album. Enfin, j'ai réfléchi en tout cas à la tracklist avec les textes et la jetée, ben c'est une bonne façon de plonger dans l'album et on ressort avec la porte. Enfin, il y a quand même un petit fil à suivre, quoi.
Rover, un mot sur ce que vous venez d'entendre.
J'adorais, super. Ouais. C'est amusant, ça me fascine toujours à quel point pour un artiste, et Laura en parlait très bien, on a l'impression de faire de vraies révolutions, et c'en est des révolutions artistiques, ne serait-ce qu'en enlever la réverb sur une voix, ou moi c'était par exemple raccourcir des intros, et avoir l'impression qu'on défigure son art et qu'on est en train de faire vraiment une vraie révolution à l'intérieur de son travail et de se rendre compte qu'en fait c'est magnifique d'abord en résultat mais que c'est une suite logique en fait du déroulement de disque en disque et d'une carrière mais en tout cas d'un travail sur le long terme et qui passe par ces étapes là et je me souviens très bien et je pense que ça a dû faire la même chose Laura de prendre des décisions comme ça qui semblent très radicales de production ou de manière de travailler à distance ou et de changer ses habitudes. Et je pense que c'est ce qui fait la pertinence de chaque disque et de chaque approche. Et on se rend compte qu'avec le temps, en fait...
Ça trace un sillon, en fait. C'est-à-dire que quand on fait un disque en contre-pied du précédent, en fait, on est quand même dans la lignée. Qu'on a pris le contre-pied, exactement. Un album intime aussi, personnel. Mm-hmm. Dans le premier album, c'était plutôt tourné vers le palais. Ça, c'est vraiment une fille comme vous, 2021. Une fille qui aborde des sujets, son homosexualité, notamment dans la chanson « Dans mon lit ». Des sujets qu'elle n'aurait pas pu aborder plus tôt dans ses chansons.
Je pense que j'étais pas prête. Je pense que c'est un chemin personnel et d'artiste, mais que en effet, si je l'ai pas fait avant, c'est que je ne le pouvais pas.
Et puis les choses ont changé aussi depuis.
Oui,
2017.
Mais je pense que c'est plutôt intrinsèque à ma personne qu'au monde qui m'entoure. Mais peut-être que je me trompe. Enfin, ça va sûrement ensemble. En tout cas, c'est sûr que. Je l'ai dit aujourd'hui parce que ça me semble important et que je ne pouvais pas le faire avant.
Une fille, c'est le titre, c'est vous.
C'est moi. Oui.
Une femme, non?
Non. Bon, une fille, une femme...
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose et je me suis posé la question, évidemment. Mais une femme, ça raconte quelque chose de plus solennel pour moi. Une fille, c'est peut-être un peu plus libre, farouche. Je n'aurais pas vu, enfin, mon album l'appeler, j'aurais pas pu l'appeler une femme. Pour moi, c'était vraiment trop sérieux, quoi.
Ça fait trop Nicole Croisille, en fait.
Ouais, je pensais à Lara Fabian, moi, je sais pas. Mais...
C'est ça, une femme, c'est Lara Fabian.
Voilà, une fille.
Une fille, c'est Laura Cohen. Très bien. Alors, je voudrais qu'on écoute un titre qui est à part, même s'il s'inscrit dans cet album, parce que c'est un duo avec El Naïm, Coquelicot.
Ne reste-t-il que les épines ou le temps des cerises là? J'oserais les roses rouges, les glantines aussi poussera. Si lentement s'éloignent les copeaux, dis quand refleuriront les coquelicots.
Duo donc avec une femme, il y a El Naïm.
Oui.
Oui, c'est une femme.
Fille,
avec une
femme.
Fille et une femme. Voilà. Sur scène, des femmes avec vous, musiciennes. Mm-hmm. Dans les clips, les réalisatrices sont des femmes. Mais vous travaillez avec Dan Levy à la réalisation, c'est un homme.
Ah, il y a une petite incohérence.
Non, pas du tout incohérence, non. Sami Osta, aussi un homme pour la réalisation. Mm. Est-ce que ça veut dire qu'il est difficile aussi de trouver des réalisatrices pour les albums? On a regardé tout à l'heure au bureau, on s'est interrogé avec Marion. Tout de suite, bien sûr, le nom d'Edith Fonbouena est arrivé, le nom de Catel aussi.
Oui.
Mais en fait, on en a trouvé deux, donc ça veut pas dire qu'il y en a
pas
très peu, en fait.
Beaucoup, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus et qu'il y en aura de plus en plus, j'espère, mais... C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas croisé le chemin vraiment d'une femme réalisatrice avec qui j'avais envie de faire un disque pour le moment, mais j'espère que ça va venir. Enfin, j'adorerais.
Vous vous êtes rencontré avec El Naïm au centre chorégraphique de Grenoble. Vous deviez faire une performance chorégraphique.
Non. Enfin, elle, si, un peu, puisqu'elle était perchée sur un culbuto et qu'elle se balançait comme ça en chantant ses chansons avec un ukulélé.
Et
moi, moi, j'étais dans une pièce avec plein de bougies. En fait, c'est Johan Bourgeois qui avait scénographié l'ancien musée de peinture de Grenoble. Donc, dans chaque pièce, il avait décidé de mettre une femme chanteuse. Ils avaient habillé la pièce. Il y avait un parterre d'eau dans une pièce avec un piano à queue magnifique. Bon, moi, j'étais avec des bougies et on était voisines de pièce, il y a elle et moi. Et je sais pas, je pense qu'on a eu une connexion assez forte. Enfin, je l'ai adorée tout de suite. J'ai trouvé vraiment adorable, très gentille et puis très touchante. Et je lui ai proposé assez naturellement ce duo qu'elle a accepté. Et j'en suis très émue.
Alors l'album s'appelle Une fille, mais pourtant il y a aussi une femme qui est mentionnée dans cet album. D'ailleurs, comme dans les albums de Catel et comme dans Alice et moi, avec le terme maman qui apparaît dans une chanson. Qui est votre mère en fait? Elle est musicienne?
Martine.
On salue Martine. Musicienne Martine?
Non, mélomane aussi. Elle a joué un peu de guitare, mais elle fait plutôt de la peinture. Ma mère est psychiatre, ma mère est formidable et elle me touche beaucoup.
Elle est au centre aussi de l'album, la chanson est placée au centre. Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Laura Kahn était notre invitée pour son album Une Fille. Quelques dates pour réserver en 2022, le 10 février à Fontaine, le 26 à Metz et le 23 novembre à Paris à la Maroquinerie. Rover, troisième album, Escalaire. Beaucoup de rendez-vous en 2022, Clermont-Ferrand le 12 janvier, Grenoble le 13, Vitré le 21 janvier et bien d'autres. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, pas de Côté Club, mais non, c'est Réveillon. Programmation festive placée sous le signe de l'humour, de l'électro et de la pop sophistiquée sur France Inter avec Nora Hamzaoui, Payanotis Pasco, Arnaud Florent Didier et Rhône, sous la direction d'un maître de cérémonie impeccable, Thomas VDB, bref, une soirée flûte à bec. Côté Club, c'est toute une entreprise. Qui ne connaît pas la crise? Stéphane Guenec à la réalisation, Jenab Sangaré à la technique, Marion Guilbault, Virginie Rouzic, Alexis Goyer avec la collaboration de Tiffany Mendes pour la programmation. Muriel Pérez était aux playlists. Alors Côté Club, on ferme. Je vous souhaite le bon soir.